Le chef m'a dit que c'est bon qu'on peut commencer. Alors, je m'appelle François Hébert, mais on n'est pas ici pour m'écouter parler, mais Alain Farah. Alain Farah que je vais présenter, qui va se présenter tout au long de cette période-là pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui le connaissent ben, pourront poser des questions un peu plus pointues peut-être. Par exemple, sur le patator, ou c'est l'inventeur du patator. Je me suis dit, je dirais ça pour voir les gens qui rient, qui vont savoir c'est quoi le patator. Je pense que c'est pas tout le monde qui est arrivé au patator. Hein? Mais en tout cas, ça va. Je vais le laisser parler du patator un petit peu plus tard. Le matamor va parler du patator. Pour présenter Alain Farah, je me suis dit qu'il fallait qu'il existe d'abord, et puis quelle meilleure façon de le faire exister, c'est de lire quelques extraits d'un de ses livres. Il y a deux livres, Quelque chose se détache du porc et Matamor numéro 29, dont il sera, j'imagine, amplement question. Ce sont des poèmes ici qui ressemblent à de la prose, et ici c'est de la prose qui ressemble à de la poésie. Donc c'est déjà une question qui sera posée tout à l'heure. Je prends des petits extraits un peu à la manière d'André Breton, que sûrement il a pratiqué aussi parce que le surréalisme pointe de temps en temps dans ses récits. Donc je brasse les phrases et j'en fais un petit montage pour arriver à le faire exister parmi nous. C'est une salade dialectale. Ce que d'autres appellent malaise, je le nomme concombre. La grenade est mon aliment favori. L'oignon connaît l'origine de sa tête et du mâle. Ève épelle le légume détendu, apprêté en salade. L'omelette est un principe à revoir. Manger une table, seule fonction de l'imaginaire. Ensuite, il s'interviewe, puis je terminerai là-dessus pour qu'il existe enfin. Il s'interviewe lui-même, donc c'est pas trop compliqué pour moi. Je pose la question, puis je réponds pour lui. Comment vous êtes-vous embarqué dans cette galère? Embarqué, c'est le mot. Une germination typique. D'un côté, ma mère, qui n'est pas encore ma mère, marche tranquillement sur le trottoir, arrive à l'intersection. Déjà à cette époque, elle est consciente des risques, de la mort qui vient si vite. Elle s'interroge longuement sur le moment du passage, finit par franchir le cap, se fait heurter par le laitier et sa bicyclette. Éclatement des bouteilles, sa tâche, la peur lui donne raison. Au même moment, ailleurs dans la ville, mon futur père observe de son balcon le convoi militaire chargé de nourrir le quartier. D'habitude, c'est thé, sucre, riz. Mais la règle veut l'exception. Il court et obtient un poulet. La volaille qui n'existe plus devient dans sa main objet poétique. Elle fait de lui un être vivant, heureux. L'animal est un ingrédient privilégié dans la préparation de la soupe verte, la molochéia, le plat de résistance traditionnel. Après quoi, ils grandissent, franchissent mers et mondes. D'un port l'autre, ils aboutissent ailleurs, se marient un 6 du 8, puis me conçoivent. Alain Farah.
Merci. Là, entre ce moment-là puis maintenant, il y a un petit bout aussi, là, mais...
C'est de la littérature alimentaire.
Ouais,
entre autres, ouais. Je pose la question comme ça parce que c'est quand même une métaphore que j'ai filée, mais qui se file toute seule et qui revient souvent, avec aussi les malaises qui viennent avec, je pense, dans le récit.
Oui, je crois que par moment, c'est dur à avaler.
Alors Alain, dans ce récit, c'est de la poésie, mais c'est un récit. Donc il y a un fil, on peut tirer du côté de la métaphore alimentaire, mais en même temps, il y a des éléments biographiques. Manifestement, ce sont ses parents qui viennent d'apparaître, plus ou moins nommés, plus ou moins cachés, apparaissant, disparaissant. Nommé parfois avec un désir d'avouer, en même temps un refus d'avouer, une sorte de discrétion. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur ce désir de parole et ce désir de silence un peu simultané, cette avancée, ce recul, ce mouvement de va-et-vient qui crée beaucoup d'ambivalence, de paradoxes, d'hésitations, de troubles pour le narrateur et pour le lecteur aussi qui avance comme dans une énigme.
Ouais, peut-être que C'est incroyable comment je m'entends fort dans ce micro-là. Hein? Peut-être que la... C'est fort, hein, non? C'est vraiment fort. C'est quoi, là? Okay. Ouais. Donc, merci. Peut-être qu'une façon d'aborder cette question-là, c'est de remettre les choses dans leur contexte. Puis le livre que vous citez a été écrit à partir, je sais pas, de la fin des années 90. J'avais fait paraître pour la première fois un texte en revue en 1998. Et puis, dans ce temps-là, en fait, ça n'a pas tellement changé, mais Mathieu qui est là parlait récemment des lectures de poésie qui se sont améliorées, mais lecture de poésie, ça a été quand même un espèce de mouroir pendant longtemps. En fait, à mon sens, je les fréquente plus parce que ça en est encore un dans ma tête. Mais et puis il y avait toujours une espèce de, je sais pas comment dire, de satisfaction à parler du fait qu'on était seul et qu'on se sentait comme dans une forêt boréale quand on se regarde dans le miroir et tout. Alors le désir ou le rapport à l'écriture, il est né d'une antipathie par rapport à cette complaisance-là des récits du moi. Et à ce compte-là, j'étais mal pris parce que c'est la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de justement transposer par écrit l'espèce de vie improbable que je sentais être la mienne. Alors, est-ce que j'avais raison ou non? Est-ce que c'est un délire narcissique? J'ai toujours pas répondu à la question, mais il m'est arrivé une série de choses étranges dans ma vie. Alors, du moment de ma conception jusqu'à ce jour, il continue de m'arriver des choses très, très curieuses. Et
Faut pas me regarder en disant ça.
Non, mais c'est parce que je sais que d'ici la fin de cette soirée-là, il va arriver aussi quelque chose de curieux. C'est toujours comme ça. Donc, il m'arrive constamment des choses curieuses. Alors, arrivé au moment où je me suis dit, bon, ça serait pas mal quand même de textualiser un peu toute cette matière-là qui continue de m'attrister jour après jour, ça serait pas mal d'en faire un livre, mais tu peux pas faire le livre que tu veux faire parce que tout le monde, le créneau, dans le fond, le créneau du jeu est déjà bien rempli par tes collègues poètes. Alors, ça tombait bien parce que j'avais envie qu'ils gardent pour eux ce nom-là, parce que je le trouve, je sais pas, poche. Donc j'ai commencé à faire ce texte-là en essayant de raconter ma vie, mais en me disant, bon, il faut que tu fonctionnes par système, il faut que constamment tu te détaches du port, dans le fond, que tu partes d'une source qui est ton espèce de vécu, mais qui est misérable, qui vaut rien, et puis que tu espèces de le déplacer, tu essaies de le déplacer ou de le nettoyer pour que tu gardes de ce vécu-là ce qui serait de l'ordre de la vie. De la force de vie, etc. Donc, c'est ce travail-là. Donc, le cryptage, ça a été pendant un temps une stratégie d'évitement ou en fait une stratégie de résistance à la complaisance de la poésie.
Quelque chose se détache du port et non pas quelqu'un se détache du port. Ouais. Est-ce qu'il y a un des noms d'Alain Fara, parce qu'il apparaît avec toutes sortes de noms cryptés dans ses récits, si vous avez lu, vous verrez qu'il est Alain, des fois il se prend pour Alain Robbe-Grillet, Alain tout court, toutes sortes d'Alain se promènent là-dedans, et en fait d'autres noms aussi, sur lesquels on reviendra sans doute, parce qu'il y a une belle folie nominaliste, là, de onomastique qui est intéressante. Pourquoi? Parce que sans doute, je réponds déjà, parce qu'il y a une fascination pour la parole, le mot, la substance même de la langue, le son, enfin tout ça, on reviendra là-dessus parce que ça fait partie peut-être de cette hantise de la forme, cette recherche de la forme, quelle qu'elle soit. Quelque chose se détache du port. Il y a cette idée du sombre aussi qui apparaît, le sombre. C'est le sombre est même nommé, devient presque un personnage. J'aurais envie de penser que ce qui se détache du port, c'est le sombre. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans?
Mais pour ceux qui connaissent pas le travail, en fait, le sombre, c'est l'espèce d'antagoniste du personnage, du protagoniste qui est là donc dans les deux textes, qui était déjà là au début des années 2000, donc en 2004, quand le texte apparaît, il y a une seule mention du sombre dans quelque chose sur l'étage du port, et puis il apparaît de façon plus nommée dans le deuxième livre, et puis dans le projet dans lequel je suis, il se mute en Monsieur Obscur, et puis là, il est vraiment... Là, c'est vraiment un face-à-face. Alors, le sombre, oui, ben ça se détache, mais enfin, C'est curieux parce que le problème, c'est le pathos. Le problème du vécu, c'est le pathos. Donc, ça sert à rien de dire qu'on est gentil parce qu'on est malade. Tout le monde est malade ou qu'on est gentil parce qu'on est triste. Tout le monde est triste. La question, c'est comment on fait pour faire passer ça dans de la forme. Donc, la question du détachement, c'est en fait l'idéal, ça serait de faire détacher le sujet de son sombre. Mais le problème, c'est qu'il transporte un peu avec lui parce que le sombre, c'est aussi la galère pour le coup. C'est un peu l'embarcation avec laquelle on avance. C'est les galériens en fait qui font avancer la machine. C'est le charbon. C'est un peu l'arrière-boutique, là, ce qui se consomme là-bas.
Est-ce que j'ai envie de faire un saut à partir de ce que vous me dites là? Est-ce qu'on n'est pas au Liban, là? Est-ce qu'on n'est pas en Phénicie? Est-ce qu'on n'est pas retourné avec ces images-là aux origines d'Alain Farah, à son Liban d'origine et plus loin encore dans les déplacements plus obscurs de la généalogie et puis pour arriver ici au port de Montréal?
Oui, tout à fait. C'est là qu'on débarque aussi. La question, elle est là, puis pas plus tôt que ce matin, je parlais justement de cette question-là de Sidon, en fait, qui est donc j'ai fonctionné dans les deux premiers livres avec beaucoup des triades. Puis le premier texte, donc sa première partie s'appelle Sidon, qui est le village, donc Saïda, qui est l'endroit d'où vient ma famille. Et puis, il y a aussi ce rapport-là un peu conflictuel au pathos du fait que ayant grandi ici et tout, ça pouvait jamais accoter, de tomber en bicyclette au parc. Ça accotait pas le drame de ma mère qui s'était fait perdre une cousine par une balle perdue un dimanche après-midi. Donc, il y avait ce rapport-là critique par rapport au propre pathos dans lequel, en fait, l'espèce de côté un peu minable, dans le fond, de mes aventures. Alors, comparé à ça, il y a toujours justement l'espèce de spectre des nombreuses guerres. Donc, mes parents sont des Libanais d'Égypte, donc ils sont nés tous les deux à Alexandrie, mais ils sont... mon père est resté, ma mère est allée au Liban pour retrouver une autre guerre, alors que mon père restait assez bombardé par les aviations américaines pour Suez, non pas américaines, britanniques pour Suez, puis ensuite par les Israéliens et tout ça. Donc, ils ont toujours ces histoires-là qui sont très nébuleuses aussi, qui sont très fuyantes. C'est toujours « c'était la guerre », on ne sait jamais c'est laquelle, quand on demande des détails, c'est jamais clair, etc. Donc, oui, ça, c'est le sombre. Le monde moyen-oriental, c'est une usine à ça. Puis même dans la culture, dans la manière, donc les fameuses, comment on les appelle, des pleureuses, non, dans les obsèques, tout ça, il y a toujours un petit côté pleureuse dans chaque oriental, il me semble. Donc, on sait comment s'apitoyer sur notre sort. C'est un peu comme notre compétence principale.
Donc, par rapport à ça, il y a un désir d'éclaircissement de cet obscur-là, de lucidité, de comprendre comment ça a pu se passer, pourquoi ça s'est passé. Puis, à la fois les poèmes et le roman sont travaillés par ce désir de revenir en arrière, mais peut-être de manière agacée aussi. Je vous écoute, puis on le sent aussi dans les récits. En même temps, il faut briser avec ça. C'est du passé, puis ce qui arrive à Montréal, tous les événements les plus anodins ou les plus marquants sont importants aussi. Et en même temps, non, ils ne sont pas importants, il faut revenir en arrière. Donc, ce jeu de va-et-vient est capital. On est dans des lieux d'avancée et de recul, temporellement parlant, ouais. Je dirais. On est dans un temps qui avance et qui recule en même temps.
Mais ça a à voir avec quelque chose que, bon, chacun réalise à un moment, mais que moi, j'ai dû réaliser très tôt parce que, bon, pour plein de raisons, c'est que le temps fonctionne pas de façon linéaire et puis on vit en même temps 10 millions d'époques. Donc, le passé, le présent, le futur, moi, j'envie les gens qui sont capables de se représenter ces choses-là de façon bien découpée. Le problème, c'est que moi, j'en suis pas capable, donc je suis constamment en train d'être dans plusieurs époques en même temps. Donc, à ce compte-là, c'est normal que le travail soit pris en même temps dans du présent, mais dans du présent qui est ventriloqué par toutes sortes d'époques, et puis par toutes sortes de malheurs, et puis par toutes sortes de superstitions. Donc, je pense que ça a à voir avec ça. L'agacement, il est vraiment là, mais il sent, en fait, il demande constamment aussi à être énoncé, cet agacement-là, par des formes défectueuses. Donc moi, je suis heureux de constamment me tromper. Donc je sais plus, je disais à une autre amie que ce premier texte-là était une erreur et que je regrettais, en fait, qu'il soit paru et qu'il était donc réédité. Donc j'ai accepté qu'il soit réédité seulement avec une mise au point de 5 pages en disant... comme ça se peut pas d'avoir fait ce livre-là, c'est tellement mauvais et tout. Mais en même temps, c'est bon parce que il faut que tu sois cohérent avec toi-même, puis tu continues de te tromper constamment, puis ça, c'est une grâce que t'as de te tromper. Parce que, bon, puis ça, c'est une ligne dans Matamore. Donc, pense à Colomb qui se trompe pour trouver. Je me dis, lui a eu cette chance-là, Christophe Colomb, de se tromper, puis ça nous sert tous aujourd'hui. Alors, je me dis, si moi, à mon échelle, je fais 2-3 erreurs comme ça, bon, c'est pas si pire.
C'est très touchant, la postface d'ailleurs. Il revient un peu sur comme l'autre qui a écrit, comment j'ai écrit certains de mes livres, enfin comment Alain Farah a écrit son livre. Il revient là-dessus à la fin pour réfuter les accusations d'illisibilité en même temps qu'il les accepte parce qu'il y a de la misère à se relire lui-même. Donc c'est très humble, très simple et direct et tout à fait sympathique. Il dit « Maintenant, je réalise que tout ça est plus ou moins intéressant. » On a tendance à avoir de la sympathie pour un auteur qui est humble comme ça, et puis on le trouve encore plus intéressant, en fait. Donc, ça joue dans les deux sens. « Rien ne pressait », puis cette magnifique phrase, « Rien ne pressait, mais on ne demande pas à un excité de prendre son temps. »« Rien ne pressait, mais on ne demande pas à un excité de prendre son temps. » Alors, c'est sûr qu'il y a une palpitation dans les poèmes, publié dans la collection OVNI, ça dit quelque chose, OVNI, peut-être qu'on peut passer au Matamore de l'OVNI, redescendre sur Terre et parler du Matamore numéro 29, pourquoi 29, et puis peut-être qu'Alain nous lira aussi un passage
Je peux peut-être commencer par
en parler.
Par en parler, oui, parce que c'est vrai que...
Le passage vient à la fin.
Mais en fait, c'est pour vous situer... C'est que j'ai traîné vraiment ce livre-là longtemps. Donc, Matamore, il a commencé à être écrit avant la publication du premier texte. Donc, au moment où j'étais encore bien crinqué, puis que j'avais cru que, je sais pas, j'avais réinventé la roue avec le quelque chose, c'était du port, que j'avais décrypté le truc avant que Da Vinci Code me vole mon idée. J'étais très, très emballé par tout ça. Donc, j'ai commencé comme un vrai Matamore. Et puis après, ce texte-là est sorti. Je parle de ça dans la postface. Tout le monde m'a dit, ouais, mais c'est beau, mais on comprend absolument rien de qu'est-ce que tu veux dire. Et puis moi, j'étais sûr que les gens allaient appeler chez ma mère pour dire « c'est terrible ce que vous lui avez fait ». Moi, j'étais sûr que c'était hyper limpide. Et puis là, je me suis rendu compte que personne, même pas moi, comprenait ce que j'avais écrit. Donc, je me suis dit « il y a un problème, il faudrait que tu reviennes un petit peu à tes bases ». J'ai essayé de faire ce deuxième texte-là. Et puis, une pratique que là, je... Dans laquelle je suis moins, mais en même temps, les rencontres comme aujourd'hui sont l'occasion pour moi, pour un moment, de renouer avec ça, parce que c'est une façon de vraiment travailler pour moi. Ça a été une pratique, donc encore là, Mathieu Arsenault s'en rappellera, de la lecture publique. Donc, qui a été très importante pour moi à partir de 2002, par exemple. 2002 jusqu'à peut-être 2007, 2008. Donc, où constamment, on était appelé à intervenir souvent dans les festivals, ici et puis à l'étranger, et puis à tester, en fait, constamment le nouveau matériel. Et puis, Matamore, je l'ai traîné vraiment, vraiment longtemps. L'épisode, le fameux épisode qui ouvre sur justement la soirée avec Rob Grillet et puis l'espèce d'élégie à Blinky, le petit poulet, donc que j'ai mon petit poulet, oui, à qui j'ai fait une sépulture en bonne et due forme, tout ça, parce qu'on se rend pas compte à quel point ils sont congelés ou ils sont rôtis, etc. Donc je me suis dit qu'en prenant un poulet et puis en lui faisant une vraie sépulture en bonne et due forme et puis en attendant 10 ans avant d'aller faire une autopsie pour vérifier les causes du décès, c'était comme une façon un peu de pardonner justement tous les poulets qui avaient été mangés inconsciemment par les miens, etc., dans le passé. Par mon père, notamment, qui a mangé un poulet dans sa vie, comme on voyait dans l'extrait précédent. Donc, où je veux en venir, je sais pas trop, mais l'idée, c'est que j'étais donc dans ce travail-là de la lecture publique et j'ai beaucoup, beaucoup lu le début du texte. Et aujourd'hui, j'ai promis, lors de la dernière rencontre de ce type qui a eu lieu au mois de décembre, donc par un organisme compétiteur du CRIL. Donc, je veux dire, moi, je suis un peu bonasse, dans le fond. Je vais un peu partout. Donc, Métropolis Bleu, je pense qu'il subventionnait cette rencontre-là du mois de décembre. Et j'ai annoncé officiellement que c'était la dernière fois que je lisais l'épisode des Alains. Bourdin. Donc aujourd'hui, puisque François Hébert me demandait de lire un extrait, je dis mais c'est vraiment dommage pour moi parce que c'est le seul bon extrait du texte et puis ça marche assez bien en fait devant le public. Les gens sont assez émus puis ça pleure des fois et tout. Donc tandis que là, je vais devoir en fait, je me dis je vais fonctionner à l'envers, je vais lire la fin, mais en fait, ça vous évite de l'acheter déjà, un. Et puis deux, c'est ça. Ça oblige aussi à lire le texte à la fin de la discussion sur le texte. Ce à quoi je suis pas habitué. Là, je viens de faire une espèce d'auto-analyse de 5 minutes.
C'est bien. Alors, c'est fini?
Ouais, je pense que oui. Quoique un petit moment de silence, ça respire aussi, là.
On peut commencer par la fin. On peut commencer par la fin, à ta mort.
Oui? Oui, oui. Ah bon, OK.
Puis on reculera, on reviendra. Il s'en tirera pas, hein?
Donc, alors, 29 aussi, parce qu'il y a 29 épisodes. Et je vais lire, donc, l'épisode 27 et l'épisode 28. Donc, l'épisode 27 s'intitule « Je pars d'où je viens, tu me suis ». La pilule rouge pour réguler le taux de production des anticorps. La pilule verte pour détruire les bactéries néfastes logées dans l'iléon. La pilule bleue pour donner au système du calcium et ne pas fragiliser les os. La pilule jaune pour calmer les tremblements. La pilule blanche pour que les glandes surrénales réduisent l'inflammation. L'injection de B12 pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carence vitaminique. Les bains d'iode pour éviter d'autres infections. Les perfusions d'anticorps de poisson pour tenter d'endiguer l'ouverture des canaux. La solution orange pour réduire le muguet. Santé, mon vieux, la vie est belle, etc. Après le petit déjeuner, je me mets au travail, pensant à toutes ces phrases que j'écris pour dire « je suis vivant », parce que jamais la vie n'a été si puissante, intense, difficile, parce que même si l'on perçoit le « qui » avec le nom sur la couverture, même si le « comment » peut se comprendre, de par ma filiation esthétique, c'est le « pourquoi » qui nous échappe. C'est souvent ça le problème, en général.
C'est pas dans le texte, pas dans le texte.
OK, OK. Je recommence plus. Mais Arsenault, il aimait ça, il mettait ça sur son blog, Farah, il change. Il aime ça quand je sors. Il aime ça quand je sors du texte. Je vais quand même sortir une ou deux fois encore.
Est-ce qu'il peut venir parler aussi, hein? Mathieu?
Ben oui, j'aimerais ça. S'il peut me donner un bisou aussi, ça a toujours apprécié. Bon, là, sinon, je faisais parce que ça dérape toujours, cette histoire-là. Bon. Donc, bon, c'est quoi l'affaire avec ton livre? C'est ça que j'essaie de me demander. Au terme d'innombrables heures d'interrogation, tout ce qu'il nous reste, c'est cette affirmation de Joseph Mariage. « Je suis un leurre à l'ancienne, fabriqué de toutes pièces pour attraper le plus de poissons. » Cette description n'est-elle pas tout indiquée pour un opérateur de radar aux connivences soviétiques qui, après quelques difficultés financières, se fait muter dans un dépôt de livres éducatifs? Tout cet ouvrage ne serait-il qu'une réflexion sur la mort d'un Irlandais, donc le sénateur Kennedy, telle qu'incomprise par le rapport Warren? La triangulation de ma structure, donc je fonctionne à trois structures, à trois parties, œuf, zéro, love, ne serait-elle qu'une fiction, donc au sens, et là je fais semblant de parler allemand, de la Gedanken Experiment, mise en place pour expliquer comment un homme de 29 ans résiste aux leçons sombres? Qui tire les ficelles? Que nous révèle ce mystère déguisé en énigme de manière à avoir l'air d'une astuce? Tout cela, en fait, ne serait-il qu'un numéro? Staline le Boucher disait « Les poètes sont les ingénieurs de l'âme ». C'est pour dire un peu mon amour de la poésie que j'ai mis ça dans la bouche de Staline. Excusez-la. Voilà pourquoi je concentre mes forces sur ces moments où la vie résiste à la littérature et du même coup résiste aux leçons sombres. Comme à Fatima où, avec mon père, je mange des tartelettes fourrées à la crème et je pense à Francisco et Jacinta, les petits bergers, aux trois fois où ils ont vu la Vierge Marie, au pape qui est mort après les avoir béatifiés, et je me demande pourquoi ces pâtisseries portent le nom de Bethléem. Comme à Los Angeles, où barbotant dans un tourbillon, nous plaisantons entre collègues à propos du génotype et du phénotype. Une autre notion que j'ai jamais compris. Peut-être que, bon. Et je pense à cette première nuit blanche, qu'on appellera par la suite Alain et les limousines,
qui se déroule lors d'un week-end particulièrement chaud et lors de laquelle on me trimballe dans un chariot au rayon des surgelés d'une épicerie bondée pendant que je hurle à tue-tête « Je suis circoncis », expliquant ensuite à un policier m'ayant intercepté que je faisais ça pour un projet. Et je pense au mois de mai de mon enfance où, après les chapelets dédiés à la Vierge, nous parlons du succès de notre club de hockey en humant les lilas. Et je pense à cette deuxième nuit blanche, qu'on appellera par la suite « Sol de nuit », lors de laquelle, après avoir lu sur scène les premières pages d'un récit autobiographique, je parcours plusieurs centaines de kilomètres en train de déguster un poisson raffiné à l'heure du petit déjeuner avant d'être admis à l'hôpital pour troubles digestifs. Et le deuxième, l'avant-dernier épisode, donc « L'œuf se love en zéro », donc il reprend les trois structures, les trois, je sais pas pourquoi je disais, les trois parties. Au réveil, même routine. Je vais à la toilette, je déjeune, je prends mes pilules, mais aujourd'hui, je vais ouvrir ma boîte aux lettres, c'est une variante. J'y trouve une invitation pour participer au Festival de littérature. Je me dis que ce sera une excellente occasion de présenter des extraits de Matamor numéro 29, l'occasion est idéale de lire mon opéra sur Blinky la petite sole. Je me rends au bureau de poste en humant les lilas et j'accepte l'invitation. Un mois plus tard, je prends l'avion pour Paris et je sors directement devant l'ancienne prison où, par une journée calme, quelques paysans affamés provoquèrent une émeute à cause de la cherté du pain. Je sors du café de la Bastille, direction la gare où je cours pour attraper mon train. J'arrive à Lyon en après-midi et je prends une chambre à l'hôtel moderne. Puis, je note tout ce que je viens de dire. Je prépare ma lecture, suis inquiet à l'idée de passer une autre nuit blanche. Ça me fait penser à la fois où nous sommes allés à Boston. Je me prépare comme il faut et la lecture se passe bien. Je suis assis de façon très relâchée, je suis claqué. Tu sais, quand ça fait 4 heures que tu te tapes des mauvaises lectures, il y a beaucoup d'Italiens, je fais des blagues sur le saucisson de Bologne, mais ils ne me comprennent pas et la soirée s'éternise. À minuit, une fille rentre sur scène, une sorte de condensé des Tennis Girls à qui s'adresse cette fable. Elle porte une robe colorée, très courte sans être vulgaire, a de longs cheveux blonds noués en queue de cheval, maquillage plus façon poupée que poulette, c'est efficace. Je suis très attentif à sa performance, je me sens comme devant un personnage de conte. Elle court partout sur scène et raconte plein de choses avec un accent slave. Elle dit des phrases très simples, par exemple « Je vais préparer quelques tartes très bonnes avec papa ». Je me sens tout à coup bizarre devant ce truc très beau, très enfantin, qui devient de plus en plus étrange. Comme si dans le panier, le petit chaperon déposait sa cueillette de muguet, mais pas celui qui sent bon, celui qui prolifère sur ma langue. L'ambiance est de plus en plus glauque, je réalise que la fille a une prothèse au bras gauche et une autre à la jambe droite, et qu'elle appuie souvent dessus pour déclencher des effets musicaux, comme ce chant de Noël traditionnel. L'ambiance n'a rien de joyeuse ou de rassurante, on voit sous sa jupe la lumière de la seconde prothèse et elle dénude sa cuisse pour la replacer. Là où on se serait attendu à découvrir une jartelle, quelque chose d'enthousiasmant, bop, c'est un pansement très épais qu'on trouve, comme ceux qu'on m'applique à l'hôpital quand la plaie s'infecte. Je regarde tout ça avec beaucoup de curiosité et je trouve cet artiste génial. Je pense tout à coup à Jeffrey Valence et à toutes les choses qui se mettent en place, l'amour, l'œuf, le zéro. Je viens de trouver comment finir ce roman. Je regarde la performeuse avancer dans son abécédaire. Bon, parce que la performeuse en question lisait un texte qui s'appelait « Mon petit alphabet » avec un accent suisse-allemand. Et donc, elle allait la lettre A, la lettre B, la lettre C. Et ce qui m'a fatigué, c'est ce qu'elle a utilisé pour la lettre F. Donc, ça dirait à peu près 5 minutes par lettre. Et puis, à la lettre F, donc c'est ce que je dis dans le texte, je regarde la performeuse avancer dans son abécédaire. Encore un effort. Je finis mon roman. Elle travaille pour moi. À la lettre F, elle m'achève. Fuck la fertilité, fait-elle. Et à partir de là, je comprends le sombre et la nature de ma lutte et je regarde le travail de cette fille. C'est la force de la fausse innocence. L'ingénuité factice des agents rusés. Je la vois gambader sur scène, c'est de la force de vie qui donne le cafard. Comme mariage, elle travaille pour moi et je terminerai mon livre en la laissant sans nom.
Il y aura un examen après, on va poser des questions. Quelle est la différence entre une poupée et une poulette?
C'est dans l'habillement. Les poulettes sont jamais habillées, en fait. Ben, à l'abattoir, en tout cas, moi, où j'ai travaillé longtemps, j'en ai jamais vu une d'habillée.
D'accord. Alain, une chose importante, faut être sérieux quand même, comme dirait ouais. Joël Le Bigot, on n'est pas ici pour s'amuser.
Ouais.
La forme, le travail sur la forme, le travail sur la forme. En lisant ça, c'est pas qu'on s'ennuie, on s'ennuie pas, mais on est baladé de forme en forme. On est vraiment en haute mer de la forme, on peut dire. J'ai noté, j'ai commencé à les noter, je me suis arrêté à un moment donné parce que ça devenait... D'abord, ça commence sous la forme d'un entretien. Ensuite, c'est un mode d'emploi. Ensuite, un roman arrive avec un passé simple, foudroyant. Ensuite, c'est du théâtre. Ensuite, c'est de les gloses, des études. Ensuite, c'est de la poésie. Une leçon de tennis. Son journal. L'opéra au rayon des surgelés pour Blinky. Carnet d'écrivain. Un texte scientifique où on invente le patator. On reviendra là-dessus peut-être. Un roman d'amour. Une biographie de Joseph Mariage, qui est l'ancêtre le plus lointain qu'on puisse trouver, avec un nom inventé ou pas, je ne sais pas, mais enfin, assez frappant. Un musée, du lettrisme, de la BD, un roman dans le roman, du cinéma, du rêve, des technologies de l'information, l'informatique avec des bop, 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 bop. Ça revient souvent, bop, bop, quand tu veux changer de sujet ou quand tu veux se remettre en question, bop, 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 ou genre, tu veux dire, là, bop, bop.
C'est les scènes de sexe, souvent.
C'est ça. C'est coupé, ou vous voyez ce que je vois. Ou...
Mais c'est que je voulais pas que ce soit un texte vulgaire. Donc, à toutes les fois où il y a de la sexualité, je mets « bop » à la place.
Des mises en abîme.
Je suis sérieux.
Moi aussi.
Mais c'est parce que tu m'avais averti.
Non, c'est clair. Ouais. Il faut être sérieux. Puis d'ailleurs, justement, dans le livre, il y a des cours universitaires. Ouais. Ça, c'est pas sérieux. Non, mais il y a des cours universitaires où ils nous parlent longuement de Hamlet, Joyce, Dante, de mise en abîme, tout ça. Enfin, c'est costaud, là. Je sais pas si de vos étudiants qui sont ici, mais il doit être un bon prof, non? En tout cas. Il y a des cours, il y a des morceaux de cours là-dedans, là. C'est politique aussi. À un moment donné, on parle de M. Buisson. On suppose qu'il s'agit de George Bush. Des citations,
c'est fort, hein.
Dit que c'est assez fort. Hein.
Ouais, c'est
un dictionnaire.
Non, mais c'est pas vous que je trouve fort d'avoir. Mais c'est moi, je me dis, je trouve fort pour d'autres raisons, mais moi, je me dis, ça, c'est des choses qu'on regrette. Bush, Buisson, tu dis, c'est ça, c'est assez médiocre quand même. Okay. J'aurais dû juste dire Bush.
On en reparlera après. Les tons aussi sont très... L'épique. Ouais. Le ton épique est important. C'est pas souvent qu'on a ça dans des poèmes. Ou dans des romans d'ailleurs, cette idée de revenir sur des événements lointains qui se sont passés, puis qui ont laissé leurs traces, mais qui continuent de se passer, puis qui sont pleins d'une sorte de fatalité, de causalité inéluctable, de marche du temps et des nations et tout. Donc, on pense qu'il parle rien que de lui, c'est pas vrai, là. Il parle de beaucoup de choses. On est dans toutes sortes de lieux, ça s'additionne, le métro de Paris, le Caire, Dallas, Alexandrie, Los Angeles, et j'en passe. Donc, la course du monde est quelque chose d'important, là, à la fois dans l'espace et dans le temps. L'épique, à quoi s'ajoute le loufoque, parce qu'il y a beaucoup de loufoques, le trivial, le baroque, je pense que c'est un roman, le fantastique, le tragique, le conte, l'autobiographie, l'autofiction, puis là, je suis épuisé. Non, mais je veux dire, c'est pour montrer que dans son roman se mêlent toutes sortes de toutes sortes de polyphonies, on pourrait dire. Alors, c'est ça ma question sur la forme, je ne sais pas si j'y réponds avant de la poser, mais... ce souci de la forme, de trouver la forme juste, la façon de parler des choses, parce que c'est pas rien que l'évocation, mais cette manière de les aborder, de les réaborder, de les remettre en circulation d'une autre façon, par le dialogue, par l'évocation un peu folle, par le tragique aussi. On rit, des fois on rit jaune, des fois on... Est-ce que c'est une recherche, là?
Mais c'est dans le fond, c'est la seule question, en fait, que vous, dans le fond, dont je devrais répondre sérieusement.
C'est la meilleure que j'ai trouvée.
Ouais. Mais puis c'est ce que je dis justement aux étudiants qui sont au début de leur propre travail. Tout ça, c'est
ça concerne beaucoup ça aussi, de trouver sa forme. Et puis, trouver sa forme, ça ne veut pas dire justement aller à l'espèce de supermarché de l'histoire des formes et puis dire « Ah ben moi, ça serait le sonnet qui m'irait et puis moi, ben non, ça serait le monologue intérieur, tout ça. » C'est toute la question, c'est qu'il y a une détermination, en fait, de la forme dans... C'est Barthes qui disait ça il y a longtemps, dans une espèce de biologie du style, donc dans ce qu'on est. Alors, si on est excité comme moi, eh bien, on se fatigue vite d'une forme. Donc, à ce moment-là, pour que le matamor puisse être un vrai matamor, c'est-à-dire une espèce de pseudo courageux qui se révèle poltron à partir du moment où la première menace se pointe. Il faut qu'il ne reste pas dans une forme. Il faut qu'il soit tout le temps dans la fuite, en fait, dans le tâtonnement justement par rapport à cette question-là de se donner le droit à l'erreur. L'erreur est une opportunité pour moi. Il n'y a pas d'idée de finition. Il n'y a pas d'idée de telos, d'espèce de but sur lequel justement la littérature a à attendre, autrement que sa propre... comment je pourrais dire? Sa propre fabrication, sa propre émergence. Et puis, à ce compte-là, le point commun dans toutes les formes que vous avez évoquées, ça serait peut-être l'intensité, en fait. Ou au sens où, dans le livre, c'est-à-dire de chercher ce qui, dans chaque forme, puis je veux dire, ça peut continuer là, avec le bulletin météo, puis le 140 caractères que Twitter nous impose, je veux dire, c'est toujours quelque chose qui se reconfigure, mais c'est dire comment amener de l'intensité dans cette forme-là, de se tenir loin de la complaisance, résister politiquement du mieux qu'on peut à espèce de cours du monde. Et puis, donc ça s'articule ensemble, toutes ces questions-là. Mais je pense que ce que moi, en fait, je retiens, c'est le droit à l'erreur constant de l'écrivain.
Ben, le droit à la réussite aussi qui va avec, c'est-à-dire à l'avancée, à la progression, au progrès, pas dans un sens matérialiste, mais... dans le sens peut-être politique, vous venez de mentionner le mot politique, je pense que la forme, c'est pas rien que, je pense que vous en avez contre un peu les formalistes disons, mais les formalistes politiques ou les formalistes qui font pas rien que la forme pour la forme sont plus intéressants que les formalistes assis qui ont lu un manifeste et puis qui font de la forme à l'infini. Ici, la forme, elle est en rapport avec les discours actuels. On est à l'écoute de tous les discours qu'on entend et puis on essaie de répondre. Notre parole doit porter, hein? C'est ça. Et les discours qu'on entend sont aussi pleins d'échecs et pleins de ratés. Donc, comment coïncider avec ça? Ouais. Quels sont, en ce sens-là, vos écrivains fétiches, d'après ce qu'on peut lire dans les livres? En tout cas, ça va être des gens comme, au Québec en tout cas, ben, en France, des gens comme Christian Prigent ou... peut-être Valère Novarina ou des gens que j'ai relevés comme des gens assez subversifs, assez étonnants, qui font pas de la littérature facile, mais exigeante d'un point de vue formel. Et ici, des gens comme Ducharme ou Hubert Aquin, et on se disait ça en prenant un verre de vin tantôt aussi, mais il l'a pas écrit dans son livre, mais ça va venir dans les livres suivants, Fred Pellerin.
Mais oui, je j'étonnerais personne de toute façon dans l'audience parce que je connais tout le monde déjà pour commencer. J'amène ma gang parce que sinon on serait un peu juste nous deux.
Est-ce qu'ils sont payés?
Ben, le cachet est distribué là. Ben va être distribué au bistrot surtout tantôt. Je veux juste préciser que moi je buvais pas de vin dans cette discussion là parce que je suis très strict avec mes étudiants. Je leur explique qu'il faut pas boire d'alcool, des choses comme ça. Par rapport à ça, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, il y a un gros quiproquo, c'est justement par rapport à la forme. Je ne sais pas ce que c'est une forme. Donc, je me demande, d'ailleurs, on m'a posé ça en soutenance, j'ai assez mal pris, qu'est-ce que c'est une forme? J'ai dit, je ne sais pas. Ben, c'est bon, ça, j'ai passé pareil, fait que tout est possible. Mais donc, qu'est-ce que c'est une forme? C'est compliqué, en fait, de se représenter ce que c'est.
Il parle comme Fred Pellerin. Il parle exactement comme Fred Pellerin. Non, mais c'est vrai, cette façon de raconter la soutenance, là. Bon. On m'a demandé, là, Fab, je sais pas, puis j'ai pas assez.
Mais c'est
même
public maintenant, notre liaison, donc ça va. Oui. Ça, même, ça a eu lieu devant, donc dans une belle maison à McGill, tout ça. Donc, pas la liaison, la rencontre qui a rendu public la liaison. Mais ceci étant dit, la question, donc, c'est pas savoir ce que c'est une forme, donc me rabattre sur les effets qu'elles peuvent avoir ou qu'elles ont les formes. Donc, que ce soit donc d'un point de vue esthétique, dans justement la manipulation d'espèces de coquilles vides, donc le qui est un des motifs de Matamor, donc par rapport à la question justement de l'œuf, tout ça. Donc, les formes sont aussi des coquilles vides. Et puis, politiquement, on est constamment organisé ou on vit de façon organisée dans ce que les contemporains appellent, les philosophes contemporains, des formes de vie, tout ça, donc qui produisent aussi des effets. Donc, pour moi, c'est pas tant la question de la forme qui m'intéresse que de ses effets. Et puis, par rapport au panthéon dont vous parlez, tout ça, c'est certain que il y a pas... Mon antipathie versus les velléités formalistes, et puis ça tombe... C'est curieux peut-être de dire ça, parce que tout de suite, dès que le travail est paru, c'était « Ah, si, ça, une nouvelle barre du jour, herbe rouge, formaliste, pas de sens, va des rétros, etc. Alors que ce qui m'intéresse, moi, c'est une seule chose, c'est la vie. Donc, c'est ultra, peut-être, cliché de dire ça, mais je comprends comme pas comment on fait pour vivre en dehors de la vie. C'est que il y a des formes comme ça qui dans son espèce d'orfèvrerie ou je sais pas d'asepsie complète du rapport au monde, mais en fait si on peut me dire elle est où cette espèce de planque là en dehors de la vie, j'apprécierais. Mais en attendant, à défaut de pas le savoir, je suis comme pris là-dedans. Donc, dans le cambouis, donc ça fait qu'on se trompe, ça fait qu'on a les mains sales. Et puis là, j'avais dit, c'est juste que je suis payé quand je fais des citations calées d'avance. Donc, c'est quoi? C'est Peggy, après Kant, qui dit « Le problème du kantisme, c'est ça, c'est il y a les mains propres, mais il y a pas de mains. » Donc, ça serait comme le contraire. Il y a les mains sales, c'est poche, ça dégouline partout, mais au moins, il y en a, t'sais. Ça, c'est pratique des mains en général. Je dis ça en posant mon verre d'eau, même si c'est inconscient.
Et la langue, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? La langue, ouais. Le descendant de la forme, si la forme est au-dessus de la langue, je ne sais pas. Mais la langue, à un moment donné, il y a une petite digression sur ici, au lieu de dire « je suis », on dit « chu ».
Ouais.
Et puis, d'un autre côté, quelque part, je lis qu'il est question du placoplâtre et non pas du gyproc. Donc, c'est jamais innocent. Les langages viennent d'ici, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on réagit dans cette situation-là où les formes bougent beaucoup? La langue, elle est très travaillée. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets de langue. Des fois même du lettrisme, un jeu avec les lettres, une fascination pour le nom, pour le vocable, hein, pour les mots, hein, il faut le dire. Plus que, d'ailleurs, je pense qu'il dit quelque part, une chose avant d'être une chose est son nom. C'est audacieux, là.
Oui, c'est contestable.
C'est contestable et audacieux, mais c'est sympathique. Ben, et puis ça marche, sens, et puis ça fait marcher le récit. Hein.
C'est ça.
Et fascination pour la lettre, je dirais, presque lettriste, si on poussait certaines tendances des poèmes, en tout cas, dans cette direction-là. Les noms deviennent des initiales. Il y a comme une sorte de désir d'essentiel, là, de retour avec les jeux sur les Alain, puis tout ça.
Oui, il y en a beaucoup d'Alain.
Ouais.
Mais le truc, en fait... Le lettrisme, je trouve que c'est... comment, pour mettre les choses dans le contexte, le lettrisme, ce mouvement dans les années 40, Isidore Isou, tout ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, en fait, à cette époque-là, c'est complètement autre chose, qui a l'air à un regard réactionnaire par rapport à Isou, c'est Francis Ponge, qui est vraiment une espèce de fondation de moi, mon travail. Donc, à ce compte-là, quand la première fois tu lis de la poésie qui n'est pas justement une espèce de plainte, une plainte de mauvais goût là, par rapport à sa douleur de vivre, etc., mais qu'à l'inverse, tu lis un texte de Ponge, en l'occurrence le gymnaste, et puis que le texte commence par cette espèce de travail-là sur Ponge, sur le fait que la lettre G, ça tombe bien que le gymnaste commence par G, parce que la lettre G elle-même est en train de se retourner sur elle-même, comme le fait le gymnaste sur la poutre, là, ou en tout cas quelque chose comme ça, une histoire olympique. Et puis, t'es là-dedans, puis tu dis, OK, je peux travailler, dans le fond, deux fois plus, tout d'un coup, parce que les mots sont pas transparents, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On est dans cette opacité-là, et puis cette opacité-là, c'est encore là l'opportunité de l'écrivain de pouvoir soit la rendre encore plus opaque, en obscurcissant son discours, en multipliant les écrans de fumée, sachant qu'ils viennent toujours d'un feu qui est, dans le fond, imperceptible. Et c'est important pour moi. Là, c'est là une question de pudeur. Et à côté de ça, travailler dans la transparence, c'est-à-dire dans l'espèce d'a priori généralisé des gens que la langue est un espace codé comme pour toujours, au sens où qu'on peut pas justement réinventer de la langue, s'engager dans la fameuse injonction de Rimbaud, tout ça. La langue, oui, mais la question, c'est qu'il faut pas que ce soit une langue... En fait, c'est mon rapport, peut-être que la question viendra, mais j'ai pas du tout un rapport de virtuose à la langue. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me tromper. Et puis, si on parle d'une langue, je parlais de main sale, mais la langue, c'est comme c'est dit dans l'extrait, c'est une langue qui est remplie de muguet, en fait, qui a ça de muguet sur elle. Et puis, avec deux, trois types de champignons, si possible, pour que ça fasse des cercles de couleurs assez le fun.
C'est ça. Oui, c'est pas de la cabale. On n'est pas cabaliste tout à fait, là, parce que le lettrisme, il n'y a pas que le lettrisme, il y a le côté cabaliste, plus sérieux, là, profond, cette recherche de l'origine des mots, des sons, des langues et tout. Enfin, ça perce de temps en temps avec soit dans la pratique, soit dans la théorisation, soit dans la pensée de temps en temps avec... Il y a des formules, c'est plein de belles formules sur lesquelles on peut rester longtemps. J'en ai une ici. L'intention est le caillou du poème. L'intention est le caillou du poème. C'est tout un art poétique, ça, là.
C'est en rapport à cet art-là de l'erreur aussi, cette volonté-là de se tromper au sens où il n'y a rien de pire. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est la vieille ligne de Deleuze, mais c'est comme devenir écrivain, c'est tout sauf devenir écrivain, dans un sens. Donc, si vous voulez écrire un poème ou écrire un livre en vous disant « bon, ben aujourd'hui, j'écris un livre », pour moi, c'est mort, là. Vous allez avoir tout le poids de la civilisation occidentale sur les épaules. Et puis, l'accusation, c'est celle du n'importe quoi à ce compte-là. La contrepartie, c'est de dire, bon, mais est-ce que c'est n'importe quoi? Donc, par moment, s'il faut, ça, c'est une super phrase de Nathalie Quintane qui cite Stein, qui dit, Stein écrivait des phrases idiotes pour faire avancer l'écriture. Donc, si ça passe par une espèce d'entre-deux, qui serait l'espèce de socialisme de mon art poétique, ben oui. Donc, il faut à un moment donné, c'est comme quand t'as eu les cheveux courts, puis après tu vas avoir les cheveux longs. Mais à un moment donné, c'est laid, tu sais.
C'est pour ça que beaucoup de formules sont avancées comme pour mise à l'essai aussi, hein? C'est ça qui fait du livre quelque chose d'expérimental au sens profond, intéressant.
Pas idéologique.
On essaye les choses. L'intention est le caillou du poème. Puis à un moment, il se gratte la tête après dans les phrases suivantes. Puis il se dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je peux faire avec ça
maintenant? Ça marche jamais. C'est ça le truc. C'est que c'est la grâce qu'on a comme écrivain. C'est que tout ce qu'on dit est faux d'emblée. Dans le fond, on s'est trompé d'avance, donc on peut juste avancer sur l'espèce de quiproquo, de désir pendant un temps de penser que ce qu'on dit est vrai, mais notre objet, c'est la fiction. Donc, c'est normal. Alors, c'est sûr que c'est plus compliqué quand on est médecin ou en travail social d'être là-dedans, mais moi, j'ai comme le droit d'être mythomane.
Est-ce que... Ponge, mais quand même entre les deux, c'était qui l'autre avant Ponge qu'on disait donc qui par rapport à Ponge là?
Ben je disais Izou par rapport
à Ponge. Ah oui, Izou par rapport à Ponge. Entre les deux, Marcel Duchamp quand même qui est cité là. Entre les deux, je pense, il y a du surréalisme chez lui, j'y tiens là, même si lui.
Non, moi je suis pas content. Non, mais j'ai noté quand vous m'avez marqué ça.
Justement, surtout dans le début de d'OVNI, il y a beaucoup de formules comme ça, comme tirées d'un sac avec les mots pris, on dirait un peu au hasard. Enfin, faut se méfier d'Alain Farah. Parce que le hasard, il l'arrange un peu, là. Mais le hasard arrange Alain Farah aussi, donc ça devient complexe de temps en temps.
Oui, mais non, c'est ça, le surréalisme, ben, comme tout le monde à 16 ans, j'ai été surréaliste, là. Mais sinon, très très rapidement, ça m'a semblé tellement policé comme esthétique, et puis assez vite, je suis tombé en fait sur un livre qui a aussi changé beaucoup de choses pour moi, qui s'appelle L'Idiotie de Jean-Yves Jouannet. Donc un beau livre qui doit être ici, mais achetez-le pas, il est 75$, venez au bureau, je l'ai. Et l'hypothèse, grosso modo, de Jouannet, c'est de dire, ben le surréalisme a déplacé les enjeux, en fait, nous a guéri des vraies choses dérangeantes qu'il y avait dans le début de l'art du 20e siècle. Et puis, ces vraies choses-là étaient notamment Dada. Donc, si on parle de Duchamp, ben moi, Duchamp m'intéresse jusqu'au ready-made, même si je suis capable de trouver, disons, La mariée mise à nu ou bien le Étant donné magnifique. Ce qui m'intéresse, c'est quand même de poser un urinoir sur une table. Donc, et puis je vois l'étudiant même qui est présent et donc qui venait me voir dire je veux faire de la littérature, j'aime lire Musset, tout ça, donc je voulais absolument pas qu'il suive mon cours. Donc pour ça, j'ai dit la plus grande œuvre du 20e siècle, pour moi, je veux qu'on s'entende là-dessus, c'est Fontaine de Duchamp. Et puis, il a quand même suivi mon cours, puis il va échouer.
Il n'est pas là, je pense.
Non, il est là, il est juste là. Oui,
ouais, c'est ça. Ouais.
Mais il sait d'avance. Donc,
Il y a sûrement des bonnes questions pour vous, Alain. Je ne sais plus. Peut-être terminer là-dessus, je ne sais pas. Ben, terminer, non, vous donner la parole. Là. Enfin, je pense que vous avez beaucoup de questions à poser. Sinon, il va se les poser pour vous, puis vous répondrez. Mais le patator, qui est une invention là vraiment fabuleuse, digne de pas du surréalisme, mais plus que le surréalisme, autre chose là, je dirais Cortazar ou des gens comme ça qui inventent des machines bizarres.
C'est pas une invention, je vous assure. C'est pas une invention.
Faut la décrire d'abord. Faut dire c'est quoi là. J'en aurais apporté un patator, mais ouais. C'est difficile à fabriquer.
Personne. Ouais, ben, oui, mais Borisian avait anticipé ça. Mais n'importe qui a des amis en génie, là, quelqu'un qui s'est gossé un potato gun. Là. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Je sais pas si t'en as déjà vu ou t'en as deux chez toi. Bon, ça m'étonne pas. C'est une espèce de truc en PVC. Puis là, tu prends une canne du spray net de ta mère, puis ça, tu crées une espèce d'explosion, puis tu mets des patates là-dedans. Donc moi, ça donne que je me suis retrouvé dans un genre de mariage comme ça. Mais il y a une mode de mariage un peu bio, là, genre dans des espèces de chalets ou je sais pas quoi. Et puis il y a un moment, c'était très ennuyant et tout. Donc le gars en question était, c'est Maxime, j'en parle dans le texte, était en génie, donc je pense que ça fait partie du cursus à un moment donné de se gosser un potator. Et puis on a ressorti ça, mais le truc c'est que j'ai eu une super mauvaise idée en fait, c'est que quand je suis venu pour l'utiliser, moi, il y avait la grand-mère qui était juste à côté de moi qui est décédée, mais en fait c'est pas tout à fait en lien, mais ça a pas dû aider au niveau coronarien. Mais c'est que j'ai décidé de dire une phrase en fait en arabe qui est Dieu est grand. Mais juste avant de procéder à l'éjection de la patate, donc ça a créé une espèce de panique dans la... C'était beaucoup des Québécois de souche et tout, donc ils m'avaient repéré d'entrée de jeu, mais là, quand ils m'ont vu armé, en criant, quelque chose comme ça, ils ont cru que j'allais, dans le fond, prendre le sidou puis le rentrer dans le chalet. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais c'est ça, c'est super un patator, là. Mais il faut juste faire attention.
Je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque-là, un patator, parce que ça part avec le matamor. C'est, ouais. C'est le mot qui devient un patator dans le récit. Matamor, patator, puis là...
Mais non, c'est à l'envers, en fait. C'est que je rentre chez moi ce soir-là, puis j'ai été ostracisé tout le reste du mariage. Donc, je me sens triste, donc nécessairement, je veux écrire. Donc, quand je me mets à écrire, je me dis, mais c'est quoi mes émotions, tout ça. Donc, puis là, c'est comme tout, tout est dans tout, je le dis souvent, ça.
Et réciproquement.
Oui, surtout. Dans l'autre sens, c'est encore tout et dans tout.
C'est des patates bio, un mariage bio. J'espère que c'était des patates bio, là.
Ah, peut-être que c'était ça l'affaire, dans le fond. C'est que c'était des... non, je sais pas, je connais pas la variété. Je sais qu'il y en a des centaines de variétés, mais pas par rapport à ceux-là qui ont été utilisés ce jour-là.
Bon, alors voyez qu'il fait de la littérature alimentaire. Donc, écoutez, merci Alain. Voulez-vous peut-être un autre texte ou non?
Il y avait une question.
J'étais censé poser une question. Il m'a soufflé une question pour finir, là, puis je ne l'ai pas posée. C'est où allez-vous maintenant?
Oui, c'est ça.
Où non, allez-vous? Qu'allez-vous écrire? N'avez-vous pas un petit texte tout à coup à nous lire?
Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est un peu pour rentabiliser mes sorties. C'est que comme elles se font de plus en plus rares, j'avais l'habitude donc à l'époque de lire beaucoup les textes en cours, et puis ça m'aidait dans le travail. Alors j'ai demandé donc à François Hébert si justement on avait le temps, mais je vois qu'il est quand même 20 heures, donc c'est peut-être, il y avait une heure qui était comptée, donc là, c'est le moment où je...
Le boss dit ça roule,
okay.
Vas-y.
Ok. Donc c'est ce texte-là parce que qui s'appelle Pourquoi Bologne, et qui revient sur un problème en fait qu'il y a dans Matamor numéro 29, c'est que j'utilise beaucoup le terme Bologne, mais ça c'était justement, je me suis dit ah, c'est super, les gens vont venir me demander pourquoi tout ça, mais personne m'a jamais demandé en fait, donc je me suis dit bon ben c'est ça.
Ça nous dérange pas.
Mais moi, ça me dérange parce que il y avait comme tout un truc avec ça. Quand tu t'ouvres le mot, puis là, tu prends les deux lettres, tu mets de côté, une affaire justement pas intéressante. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais écrire un livre au complet là-dessus, finalement. Alors, je vais essayer de faire assez.
Pas tout le livre, hein?
Hein? Non, seulement une cinquantaine de pages. Là. OK. Ça m'émeut, là, juste d'y penser, là, parce que c'est tout chaud, hein? Je pense, c'est une version améliorée. Hein. Ah, d'ailleurs, ça va être là le cue de pas montrer ça aux gens. Okay. Donc, parce que c'est enregistré, ça passe à la radio après, mais ça, c'est trop chaud.
À la demande de l'auteur qui souhaite garder le mystère quant à la matière de son prochain livre, nous avons volontairement modifié le son pour ne garder de sa lecture que le rythme du texte et ajouter un accompagnement sonore.
I'm going to go to the hospital.
Ça m'a fait penser à Harry Potter. Je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose là dans ce monde-là de l'obscur, celui dont on ne doit pas dire le nom. Et puis d'ailleurs, avec l'histoire du poulet d'avant, là, tu dis la même chose. C'était pour un projet.
Oui, c'est ça.
C'était pour un projet. Ouais,
donc, il y a des quand vous faites arrêter, dites que c'est pour un projet. En général, ça, c'est ça. Ça passe.
Puis dans Harry Potter aussi, on voit que les photos sourient hein, dans les films de Harry Potter. Et les photos se mettent à sourire. Les personnages sortent de là et...
Non, mais
du moi, charme, je suis... du charme, Harry Potter,
non,
pourquoi pas?
Non, mais je sais.
Travailler avec les images de l'époque, du temps, des choses qui marchent.
Tout à fait. Et puis, donc, ils sont pas là aujourd'hui, mais mes deux premiers étudiants préférés, dans le temps où j'enseignais à l'UQAM comme chargé de cours, je les ai surnommés donc Ron et Hermione. Mais ils disaient, mais toi...
Ron et Hermione.
Comment? Ah oui, tu t'en souviens, tu vois, tu étais dans ce cours-là, mais tu étais dans...
C'est Ron?
Non, c'est pas Ron, lui, il était dans comment il s'appelle? Attends, dis-le pas, Serpentard, c'est ça. Ah, l'autre, ah, my God, Malfoy est là aussi, ça va vraiment mal. Mais, donc, bon, ils s'en souviennent et puis ils m'ont dit que ça a un peu créé une espèce de façon, tout le monde se représente maintenant à l'UQAM, les gens en classe. Et puis ils me disaient, mais toi, t'es qui? Mais je disais, mais je suis Madame McDonougal.
Voilà. Voilà, on est donc c'est un travail en cours.
Oui, oui.
Question, commentaire, observation. Ils en peuvent plus, hein? Ils sont complètement soufflés. C'est bon.
C'est bon.
C'est bon.
J'ai peur, non mais j'ai peur parce que je sais qu'ils vont me poser des questions. Il y en a que j'ai peur, comme surtout celui qui va échouer. Là.
Ouais.
C'est l'occasion pour lui de
Se rattraper
ouais.
Ou de couler encore plus.
Mais on peut pas aller plus bas que F, non?
Je sais pas où est-ce qu'il en est. Oui, alors, il veut que sa note augmente.
Non, mais tant qu'à y aller, tant qu'à couler, hein.
Bravo.
Avec dignité. Mais j'avais... En fait, moi, c'était l'aspect plus... tout à l'heure, quand vous avez parlé du panthéon de... un peu de vos inspirations, puis parler d'une forme, vous disiez qu'on peut pas faire du magasinage historique, mais comment on fait quand on est... Quand on est là devant quelque chose, plein de choses qui ont été faites avant, puis on est devant quelque chose qui n'a jamais été fait, on veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et un peu sur la question de vos inspirations, parce que vous dites qu'on ne peut pas magasiner, mais quand on parle du Patator, le piano tel, il y a des parallèles qui se voient un peu partout. Puis comment vous inspirez? Qu'est-ce qu'on prend? Comment on amalgame le tout? Qu'est-ce qu'on change? On ne peut pas copier, mais il faut s'inspirer à un moment. Puis...
Que c'est une bonne question.
Oui, c'est une très bonne question.
Et ça remonte la note.
Je taquine toujours, c'est mon fils en fait. Parce que j'ai fini par. Parce qu'il y a eu des soucis avec. Tout le monde disait ça n'a pas de sens, comment tu le traites et tout, parce que je l'ostracisais vraiment. Et puis, ça a comme créé une forme de tension dans la classe. Donc, j'ai fini par avouer que c'était mon fils. Donc, ça a comme. Là, c'est le truc inverse, favoritisme, tu t'en sors pas. Mais. La question, elle est importante en fait. Et quand je disais tu ne magasines pas une forme au sens où. Il faut pas être dans le gadget au sens où il faut pas se dire comment je préfère mon petit roman moderniste qui justement serait une nouveauté type Flavor of the Week là qui est le cancer de entre autres un des cancers de notre époque. Donc la question c'est pas de s'approprier de servir dans la boîte à outils. La question c'est de le faire dans une velléité moderniste un peu conne de dire ah ben je fais quelque chose de nouveau pour faire quelque chose de nouveau. Mais après, pour moi, la question de la nouveauté est super importante, mais elle se pose pas en même temps. Au sens où c'est toujours nouveau. C'est ça, c'est le vieux mot de Baudelaire. Donc, je travaille aujourd'hui à faire l'Antiquité de demain. Donc, la réponse, c'est
deviens ce que t'es, fais ce que t'as à faire, et puis parle de ton monde avec justement ton propre panthéon, puis les agencements, eux, ils se reconfigurent tout le temps. Donc, il n'y a personne, normalement, qui a mis ensemble à date Fred Pellerin, Harry Potter, Maria Sharapova, Grand Theft Auto, Lost. Donc, c'est qu'à un moment donné, quand t'arrives à 15, 20, 30 occurrences, t'as créé ton monstre à toi. Donc, c'est à ce compte-là que je pense qu'il faut pas se poser la question de la nouveauté. Il faut plus, justement, se départir de toute l'ancienneté de la fausse époque nouvelle dans laquelle on est.
Bonjour, Monsieur Farah.
Je me demandais, on parlait beaucoup d'échecs,
beaucoup d'arrêter de vouloir écrire pour écrire, de ne pas vouloir être écrivain.
Je me demandais, est-ce que tu sais, dans l'écriture, est-ce qu'on est plus près d'une pratique de l'abandon ou plus près d'une pratique d'une mise en scène du ratage?
Ouais. C'est une bonne question. Ça paraît que vous avez suivi un cours avec moi. Donc, vous me servez la soupe, c'est pas mal. Donc, B, non, c'est clair. C'est clair qu'on ne peut pas s'abandonner là, parce que si on s'abandonne là, c'est juste tellement plus de la littérature. En fait, ce n'est pas de la littérature. S'abandonner, se raconter, de là, justement, l'espèce de truc que je travaille sur la scène chez le psy, au sens où l'espèce d'ellipse qui est mise sur le dos de... on n'a pas le temps, dans le fond, de se parler des vraies affaires et tout. Mais au sens où ça ne nous intéresse pas, qu'on ait été à l'orphelinat ou qu'on était malade comme un chien ou que son oncle soit mort en sautant sur... en étant en train de faire caca puis que la bombe tombe précisément à ce moment-là où il est... Bon, c'est toujours des histoires comme ça, je vous dis. Rob Grillon n'en a même pas parlé, mais à la fin de la soirée, moi, je suis inquiet. C'est une pure mise en scène. Tout ça est une mise en scène. Il n'y a rien qui est vrai.
On parlait de mise en scène, puis on parlait de Pellerin tout à l'heure, puis son spectacle est encore frais dans ma mémoire. Puis vous n'avez pas peur... souvent, quand je compare avec ce que vous faites, ce que Pellerin fait, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Puis ça vous fait pas peur, vous parlez de mise en scène, mais il y a une substance au fond. Puis ça vous fait pas peur de, par le rire, jusqu'à quel point le message se rend pas. Des fois, on fait ça tellement drôle que les gens voient pas qu'il y a quelque chose de profondément triste derrière.
Non, c'est le contraire, ça me fait pas peur, ça me rend joyeux parce que je me débarrasse de mes mauvais lecteurs comme ça. Fred est dans une autre position complètement parce qu'il s'adresse pas à la même échelle, en fait, de gens. Et puis, il vous l'a dit la semaine passée, je veux dire, il essaye de se sortir de ça lui aussi, d'être perçu comme un humoriste, tout ça. Alors, moi, c'est sûr qu'on me dira, c'est pas sérieux, la littérature pas sérieuse, tu parles pas de l'absolu, des choses comme ça. Mais ça me dérange pas d'être à côté de Stern, dont vous me parliez. Ça me dérange pas d'être à côté de quelques plaisantins plutôt, type justement Jarry et compagnie.
C'est bon, ils ont donné.
C'est bon, ils ont donné.
Je trouve qu'ils ont beaucoup donné.
Non, moi, c'est bon. Moi, je fais ça à longueur de journée. Moi, j'aime ça. Moi, je les aime. Je les connais tous, je vous dis. Même il y en a des vieux qui avaient Martin Gendron. My God, très beau travail, ça. Je sais, mais parce que j'ai ce truc-là bizarre aussi, c'est que les noms, ils rentrent dans ma tête et après, ils ressortent pas.
Comme Bologne.
Cette histoire-là d'espion, ça me... C'est vraiment bizarre.
Il doit être un bon prof.
Non. Surtout pas aujourd'hui. On arrête ça.
C'est bon. Ouais. Alors, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.